tous. Vous êtes disciplinés. Merci à l'équipe de louange aussi qui est avec nous. Alors, si vous êtes joints à Mosaïque dans la dernière semaine, on a démarré une série il y a quelques semaines de ça, pasteur Christian, pasteur Maxime et moi-même, une série qui s'intitule « La vraie nature ». Alors, j'avais deux choix. Ce matin, arriver avec une canne à pêche et un canot de pêcheur et puis vous emmener vous promener sur une rivière. Ou alors, juste commencer avec la prédication, puis je pense que c'est ce qu'on va faire. La série, en fait, je suis pas vraiment l'amateur d'émissions de télévision. Mais en gros, le concept était d'arriver à trouver quelque chose à partager avec vous, quelque chose qui est plus personnel, du défi qu'on vit chacun d'entre nous au quotidien. Puis je me suis posé beaucoup la question, qu'est-ce que je pourrais partager avec vous qui est un des plus gros combats que je peux avoir vécu ou que je vis encore par rapport à mon engagement chrétien. Et puis, j'ai décidé de partager avec vous sur un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir dès le début de ma vie chrétienne et qui continue à le faire, en fait. On va lire ensemble dans Galates, chapitre 5, verset 7. Je pense que ce n'est pas la mienne. Galates, chapitre 5, verset 7. De toute façon, je vais vous lire, vous allez pouvoir me suivre. Ça dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des Galates et puis il va leur dire ceci. « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, un des plus gros combats que j'ai encore ou que j'ai eu en fait dans le passé, c'est de résister à l'influence. Puis je crois que c'est quelque chose qui nous touche tous. On est tous un petit peu influencés. Dans ce texte-là, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul, qui est la personne qui a eu le plus de réponses, entre guillemets, à l'appel que Dieu avait déposé sur sa vie d'amener l'évangile à travers les nations, à travers les différents pays, lorsqu'il arrive à l'église de Galates, il fait face à quelque chose qui le surprend, c'est que des personnes sont arrivées dans l'église de Galates avec des concepts, avec des réflexions qui ont influencé tellement l'église que l'église s'est perdue dans des concepts qui font en sorte qu'ils ont arrêté leur marche. C'est intéressant parce que le texte en anglais, si on prend ce même texte, ça dit, vous étiez sur la bonne route, mais quelqu'un vous a mis un obstacle et vous a donné une autre direction. C'est un peu ça le concept en anglais. En français, ça dit, vous marchiez, mais on vous a arrêté. Mais en anglais, le texte dit, on a mis un arrêt sur votre route et vous avez choisi une nouvelle direction. Et puis, quand on regarde le mot « influence » en grec, c'est le mot « peismon ». Le mot « peismon », ça peut être remplacé par « persuasion ». C'est s'efforcer de plaire à quelqu'un. Persuader, c'est-à-dire pousser ou induire quelqu'un pour le persuader de faire quelque chose. En gros, l'apôtre Paul, il dit « vous marchiez bien ». Vous étiez dans la bonne direction, vous aviez trouvé la route que Dieu avait pour vous, et pendant que vous étiez sur la route, quelqu'un est venu vous persuader de faire quelque chose. Quelqu'un est venu vous montrer un nouveau chemin, et vous avez suivi ce nouveau chemin-là. Puis je vais être très transparent avec vous, je crois qu'un des plus gros défis qui m'est arrivé, et je pense qu'il nous arrive chacun d'entre nous, c'est l'influence qu'il y a tout autour de nous. Toutes les semaines, on fait face à l'influence. Et que ce soit dans le ministère, que ce soit professionnellement, que ce soit dans nos orientations familiales, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans nos relations amoureuses, on fait tous face à l'influence. La Bible même est remplie d'exemples d'influence. Puis j'ai pris le temps de relever certaines influences, puis on va les voir rapidement ensemble. Mais vous allez voir que quand on prend le temps d'analyser ça, on a un autre regard par rapport à la Bible. Le premier exemple qu'on a tous en tête, c'est l'influence ou la persuasion de nos désirs. Le jardin d'Éden, c'est le meilleur exemple. Parce que le jardin d'Éden, on avait Adam et Ève, donc au récit biblique, qui dit qu'ils étaient dans le chemin que Dieu avait tracé, ils étaient dans le jardin que Dieu avait prévu pour eux, ils étaient dans la bonne direction. Puis là, arrive le moment, là on se dit tous qu'ils ont fait face au serpent qui était super wise. Avez-vous remarqué que le moment où Adam et Ève décident de changer de direction, ce n'est pas le moment où le serpent a été super wise, c'est le moment où leur désir intérieur est devenu plus fort. Il leur a dit, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez connaître le bien et le mal. Vous allez détenir la connaissance. Et au moment où on leur a dit, tu vas détenir la connaissance, là, ça a été comme... On a changé de direction. L'influence de nos désirs, l'influence de toutes nos passions à l'intérieur de nous. Puis, on n'a pas besoin de personne autour de nous pour ça. C'est ça qui est fou, hein? Vous et moi, on n'a pas besoin de personne pour nous influencer, on a juste besoin de nous-mêmes, nos passions et nos désirs à l'intérieur de nous. Vous savez, quand la première fois on vous a dit « je vais te faire connaître la sexualité en dehors du mariage », l'influence de la sexualité, nos passions, nos désirs, la difficulté de contrôler. La première fois qu'on t'a dit « je vais te faire connaître, c'est quoi faire le party ?» Être aimé des gens par ton attitude, ton comportement exubérant. Puis là, à l'intérieur de toi, tu te dis, hey, j'aimerais ça, moi, être accepté, j'aimerais ça être aimé, j'aimerais ça être plus reçu par les gens, puis je suis prêt à faire n'importe quoi pour ça. L'influence de nos désirs. Est-ce que vous me suivez? On retrouve aussi l'influence ou la persuasion de nos familles. Combien sont d'accord avec le fait que nos familles sont persuasives des fois, hein? Messieurs, tantôt, quand la réunion va terminer, je vous annonce déjà que vos épouses vont avoir faim et que quand elles ont faim, l'influence et la persuasion est très présente. Amen? Ah, là, j'ai vu quelques coups de coude. Non, c'est pas... Un bon exemple, on retrouve ça tout de suite dans le début du récit biblique, on a Jacob et Ésaü. Imaginez l'influence d'une maman. Puis ce matin, j'ai pris une maman, c'est pas parce que les mamans sont pas bonnes ou que les papas sont meilleurs, c'est pas ça le but, c'est juste un exemple biblique, d'accord? Mais si vous prenez l'exemple de Jacob, imaginez qu'est-ce qu'aurait été la vie de Jacob sans l'influence de sa maman. Parce qu'on s'entend que Jacob, c'est pas lui qui a décidé d'aller se couper un morceau de poil de je sais pas quoi pour se mettre sur ses bras, puis d'aller chercher la bénédiction de son père et puis de faire une soupe aux lentilles. C'est sa mère qui l'a cuisiné, la soupe. C'est sa mère qui l'a influencé pour voler la bénédiction. Est-ce que sa mère était dirigée par... Bon, je suis pas dans ce débat-là, mais l'influence de nos familles. L'influence peut être très positive, mais elle peut aussi nous attirer vers le bas. Il y a certains qui ont grandi dans des foyers où leurs parents leur ont dit « tu ne seras jamais bon, tu ne seras qu'un bon à rien toute ta vie, tu ne feras jamais rien d'extraordinaire. » Puis là, on arrive après plusieurs dizaines d'années, puis on se rend compte de l'influence de ces paroles de mort qu'ont eues sur notre vie. Puis on n'a jamais réussi à relever la tête et puis à prendre de l'assurance. Il y en a certains, au contraire, qui ont vécu avec presque rien comme ressources financières ou matérielles, avec des parents qui les ont encouragés, puis aujourd'hui, ils sont capables de marcher la tête haute. L'influence de nos familles, c'est puissant, ça, l'influence de nos familles. En tant que parent, vous devez prendre cette responsabilité de quelle est l'influence que je vais donner à mes enfants? Comment est-ce que je vais vivre avec ça? L'influence ou la persuasion de nos amis. Si vous avez des amis, je vous souhaite juste de ne pas avoir des amis comme les amis de Job. L'influence de nos amis. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort, vous avez perdu toute votre famille, décès tragique de vos enfants, votre épouse, vos biens matériels. Job, c'était le Bill Gates de l'époque. Tout le monde le connaissait pour sa richesse. Il a tout perdu du jour au lendemain. Il se retrouvait à la soupe populaire. Et quand il est rentré à la soupe populaire, en plus de ça, on lui a dit, maintenant tu vas être malade. Et là, il est tombé malade et était alité sur un lit de mort quasiment. Et ses amis, pour l'encourager, sont venus le visiter à l'hôpital et lui dire, renie Dieu et meurs. Waouh, hey, merci d'être venu me voir, hein, c'est gentil. J'aurais aimé ça que tu t'abstiennes de venir me visiter. Hein. Combien d'entre nous, on a eu des amis aussi qui sont des personnes extraordinaires, des personnes qui sont prêtes à être généreuses, à prendre soin de nous, mais qui nous attirent vers le bas des fois par leurs conseils. Leur influence est néfaste. À l'opposé, on peut aussi avoir des amis avec une influence positive. Ou l'influence de ce siècle. La persuasion, l'influence de la culture. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui va dire, avec des compagnons de ministère, de service, l'apôtre Paul va à un moment donné dire « J'ai perdu un tel et un tel par amour pour le siècle présent. » On dirait qu'il y a quelque chose qui est là dans la culture présente où chacun d'entre nous, on peut s'attacher à ça au point qu'à un moment donné, on perd de vue le chemin que Dieu avait pour nous. On va être attaché au monde, au siècle présent. Il faut faire une confidence. Savez-vous ce qui se passe quand on arrive et puis qu'on rentre dans le ministère? On a deux choix. Soit on a un concept très précis de l'appel que Dieu a déposé sur nous, et puis on essaye de marcher le plus humblement possible dans le ministère que Dieu nous a confié, ou alors ce qu'on fait, c'est qu'on regarde tout autour de nous ce qui se fait, et puis on essaye de ressembler aux autres. Parce qu'à droite, on fait ça, on va devoir se transformer un petit peu pour être un peu plus comme ça. Puis à gauche, on a vu que les gens s'habillaient comme ça parce que c'est plus mieux pour aller à l'église, alors on va s'habiller comme ça. Puis à un moment donné, on peut se perdre dans le siècle présent, même dans le ministère. Puis j'aime beaucoup cet avertissement de l'apôtre Paul qui nous dit « J'ai perdu des ouvriers, des amis, des compagnons d'œuvre par amour pour le siècle présent. » Il y a aussi l'influence de nos croyances. L'apôtre Paul, à un moment donné, va avoir une discussion un petit peu virulente entre Pierre et lui concernant la circoncision. L'apôtre Paul a été appelé pour apporter la parole aux gens, des gens qui étaient à l'époque loin de la culture juive. Puis l'apôtre Paul voyait des gens se convertir, puis Pierre lui dit « Hey, écoute, tu fais bien là, mais t'as oublié une chose, t'as oublié les ciseaux. Hein? » Paul lui dit « Ben ouais, j'ai oublié les ciseaux, de quoi tu parles ?» Il dit « Oui, oui, il y a plein de gens qui se convertissent, mais t'as oublié d'en couper un bout. » Puis là, la réponse de l'apôtre Paul m'a toujours vraiment saisi. Il dit « Mon appel, je l'ai reçu ni de toi, ni d'un autre homme, je l'ai reçu de Dieu lui-même. » Puis il a dit « Je vais continuer à faire ce que je fais. » Il me semble que la fin de la discussion, elle devait être assez ouf. Je m'imagine Pierre recevoir « Mon appel, je l'ai reçu ni de toi, ni d'un homme, je l'ai reçu de Dieu lui-même. » La culture. On vit dans un monde où la culture influence énormément, influence notre croyance même. Puis la dernière des influences, c'est l'influence de l'Église, l'influence de l'Assemblée, l'influence du groupe. C'est fou comment l'influence d'un groupe peut transformer les gens, peut changer la direction que les gens ont reçue de la part de Dieu. Quand on regarde par exemple... Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils se sont retrouvés en bas de la montagne. Moïse était resté un petit peu trop longtemps. Ça faisait 40 jours qu'il était en haut en train de recevoir les tables de la loi. Lui, il était dans la gloire de Dieu, puis tout ça. Puis en bas, au pied de la montagne, t'as un groupe de personnes qui est sorti du pays d'Égypte. Puis eux autres, là, ils ont besoin de faire quelque chose. Fait qu'ils mettent la pression sur Aaron en disant « Allez, vas-y, construis-nous un Dieu !» Puis là, ils ont sorti toutes les boucles d'oreilles, toutes les quêtes. Puis hop, ils ont construit un veau d'or. La pression d'une assemblée. Comme le dimanche matin, quand on se réunit ici. Peut-être que les louanges, elles sont pas exactement comme on voudrait les avoir. Alors on peut mettre une petite pression sur les leaders qui sont en avant, de un petit peu plus dynamique, un petit peu moins dynamique. Le son un peu plus fort, un peu moins fort. J'aimerais que tu prêches un petit peu plus. Il n'y a pas assez de chair sur l'os. On veut de la nourriture plus consistante. La pression de l'assemblée. Puis l'apôtre Paul va répondre, j'ai reçu mon appel ni des hommes, ni de toi. Mais de Dieu lui-même. Être capable de ne pas se laisser influencer dans notre marche, dans l'appel que Dieu a tracé pour nos vies, c'est un des dangers les plus importants que j'ai eu à faire face dans ma vie personnelle. Et encore aujourd'hui. J'ai trouvé ces statistiques intéressantes, l'influence, on parle d'influence, puis on est vraiment dedans, les influenceurs. Est-ce que vous connaissez les influenceurs? Les influenceurs, c'est ceux qui passent leur vie sur les réseaux sociaux pour essayer d'influencer les gens dans leurs choix vestimentaires, leurs choix comportementaux, tout ce qui va avec. Il y a une étude qui est sortie en Angleterre, au Royaume-Uni, et sur 3200 jeunes, il y en a 33% qui ont dit que leur modèle dans la vie, ce sont les influenceurs. 33% des jeunes qui ont été interrogés ont dit que ils prennent leur téléphone cellulaire dans la journée pour savoir comment se comporter socialement. Vous imaginez ça? À quel point est-ce que l'influence peut avoir dans la vie des personnes? À quel point est-ce que nos jeunes aussi font face à cette pression-là? L'influence qu'il y a autour d'eux? Facebook, les médias sociaux, la télévision. Il y a une étude qui a été faite extraordinaire, j'ai pris le temps de le dire parce que c'est une série que j'ai écoutée. J'avoue, je vous demande pardon pour ça. J'ai écouté la série quand j'étais jeune. Quand je rentrais du lycée en France, on rentrait le soir, on prenait notre... Puis là, on regardait Friends. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Allez, ce matin, on fait juste notre mea culpa tous ensemble. Levez la main ceux qui ont écouté Friends. Regardez Friends! Et puis, on pensait pas... Puis ce matin, mon débat, c'est pas est-ce que la télé est bien ou pas bien, là, c'est pas ça, d'accord, c'est pas mon but, mais il y a des scientifiques qui ont pris un épisode de Friends, ils ont pris 10 minutes, ils l'ont choisi spécialement, ce 10 minutes-là, ils l'ont fait écouter à certaines jeunes femmes, et puis à d'autres jeunes femmes, ils l'ont pas fait écouter, et puis ensuite de ça, ils ont pris un questionnaire concernant l'apparence, concernant l'estime de soi, concernant toutes sortes de sentiments, d'émotions que les jeunes femmes pouvaient avoir, puis ils ont comparé les deux, et c'est impressionnant, les personnes qui avaient écouté les 10 minutes de Friends avaient une estime d'elle très basse. se sous-estimaient, avaient vraiment beaucoup d'appréhension par rapport à leur capacité personnelle. Et les personnes qui n'avaient pas écouté le 10 minutes avaient rempli le questionnaire avec une estime beaucoup plus haute, beaucoup plus de capacité de faire face à des difficultés. Ils se sont rendus compte à quel point juste un 10 minutes d'un épisode avait une influence sur les comportements humains. Je crois qu'on doit tous faire face à quelque chose, c'est d'être conscient qu'on est influençable. Ce matin, j'aimerais juste vous allumer sur le fait qu'on est tous influençables. Le texte dans Romains 12 dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mon plus gros combat, et puis le combat que j'ai encore à l'heure actuelle, c'est d'être capable de demeurer moi-même. Ça a l'air bizarre à dire, hein, mais de rester moi-même, de continuer à aimer cuisiner, quand c'est pas in pour un gars peut-être de cuisiner, de continuer à aimer aller à la pêche, à la chasse, malgré tout ce que les personnes peuvent dire, hein, voyons, t'aimes ça tuer des animaux. Oui, j'aime tuer des animaux. Non, c'est pas vrai. je me suis enfargé, là, c'est pas correct. Désolé. De continuer à demeurer moi-même avec ma famille, avec les choses que j'aime, et puis de rester surtout, par-dessus tout, au-delà de mes orientations personnelles, de rester dans l'appel que Dieu a déposé sur ma vie. Peu importe les influences qu'on peut avoir autour de nous, peu importe des fois les paroles de mort que des personnes peuvent avoir dites, peu importe des fois des commentaires désagréables ou des commentaires même positifs des fois, l'influence peut être quelque chose de pernicieux. Quelqu'un qui vient, oh, je te vois bien, tu sais, dans telle chose, oh, je te vois tellement bien là-dedans. Puis là, tu rentres chez toi, puis toute la nuit, tu penses, hey, elle me voit vraiment bien là-dedans, est-ce que c'est vraiment là-dedans que je devrais être? Mais tu étais bien dans ta place avant, mais elle est venue semer un doute dans ta tête que peut-être c'est pas la bonne place où tu es. L'influence. Puis pour ça, il faut qu'on soit collé à Dieu. Il faut qu'on soit collé à la parole. Il faut qu'on soit collé à la révélation que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que lorsqu'on fait face à l'influence, la seule chose qui peut nous aider à demeurer, c'est d'avoir une révélation personnelle de ce que Dieu attend de nous. Et de garder ça comme quelque chose de précis. C'est vous, l'apôtre Paul va dire quelque chose à Timothée. Il va dire une phrase qui m'a vraiment marqué. Il va dire à Timothée, lorsque Timothée va recevoir cette lettre, il va lui parler de tous les défis de relier à l'Église et au pastorat. Et puis l'apôtre Paul va lui dire cette phrase au milieu de nulle part. « Rappelle-toi toujours du don que tu as reçu par l'imposition des mains. » C'est comme s'il lui disait, à chaque fois que tu vas faire face à l'influence, à l'inconnu, à la déstabilisation, il dit, arrête-toi, ferme tes yeux, puis rappelle-toi à l'appel que tu as reçu quand il y a quelqu'un qui a prié pour toi, que tu as reçu l'imposition des mains, puis qu'on t'a dit, tu allais servir Dieu. Rappelle-toi juste de ça. À chaque fois que tu vas être un petit peu chambard, rappelle-toi de ça. Puis bien souvent, vous et moi, quand on fait face à l'influence, quand la sexualité, les finances, le travail, la carrière, toutes ces choses qui sont bonnes en soi, mais viennent pour influencer de façon négative nos vies, ce qu'on doit faire, c'est se rappeler de l'appel qu'on a reçu de Dieu. De se rappeler à quel moment Dieu est venu nous chercher, puis les dons et les talents qu'il avait déposés pour nous. André Gide a dit ceci, « Il vaut mieux se faire détester pour ce que l'on est que de se faire aimer pour ce que l'on n'est pas. » C'est vrai, hein? Mais la réalité, c'est que la majorité du temps, on préfère se faire aimer pour ce qu'on n'est pas. On est les rois du maquillage et les rois du déguisement. Hier soir, mes enfants, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais aimé ça, mais mes enfants, ils tripent sur se déguiser. Des fois, dans la même soirée, on peut les voir se pointer dans le salon avec toutes sortes d'habits, toutes sortes de choses. Ils sont très créatifs, hein. Puis hier soir, c'était une soirée créative, là. J'étais en train de préparer à manger, là, puis j'ai vu toutes sortes de personnages arriver dans le salon, puis... On est tellement comme eux, en fait. Toute la journée, si on se laisse influencer, vous et moi, ce qu'on va faire, c'est porter des masques, des costumes. Puis on va se faire aimer pour tout ce qu'on n'est pas, en fait. Mais est-ce qu'on est capable de juste être celui que Dieu a créé, simplement, avec humilité, et de rester sur la voie que Dieu a tracée pour chacun de nous? Voici, je vais partager avec vous, en fait, le texte qui m'a aidé et qui continue à m'aider pour demeurer sur la route le plus possible que Dieu a tracée pour moi, pour ma famille, pour le ministère que Dieu nous a confié. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, ça dit ceci. « Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Il y a une chose qui est très importante, c'est que ce matin que tu viennes de la Côte d'Ivoire, que tu viennes de la Colombie, que tu viennes du Salvador, que tu viennes de France, que tu viennes de Suisse, peu importe d'où tu viens, vous et moi, on a le même esprit en nous. Amen. Le même, pas un esprit spécial pour les Colombiens et puis un esprit spécial pour les Français, même si je sais que vous le croyez, que les Français ont un esprit spécial, mais on a le même esprit. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il habite en chacun d'entre nous. Amen. Mais il y a une chose par contre, on a le même esprit, mais il y a une chose qui nous différencie tous, c'est la suite. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ah, ne serait-il pas du corps pour cela ? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ah, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Voici ce qui m'a touché. Et voici ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je m'attache à l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Je n'ai pas besoin d'être un autre. Je n'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de vouloir faire ce que quelqu'un d'autre fait, même s'il est excellent dans ce qu'il fait. Je n'ai pas besoin de vouloir devenir quelqu'un que je ne suis pas, parce que Dieu m'a placé exactement où il avait choisi, comme il l'a voulu. Ce matin, j'aimerais te dire que peu importe tes capacités, que tu sois né, même avec des infirmités, que tu sois né peut-être limité physiquement, peu importe tes capacités psychologiques, physiques, sache une chose, Dieu t'a placé exactement comme il l'a voulu. Amen. Juste pour ça, il mériterait une bonne main d'acclamation. Amen. Il t'a placé exactement comme tu l'as voulu. Pas, il ne s'est pas trompé. Le jour où il t'a placé, le jour où tu es né, peut-être avec un déficit de l'attention que les médecins ont diagnostiqué, peut-être tu es né peut-être avec une faculté difficile de vision, exactement comme il l'a voulu. Ouf, ça change la donne un petit peu. Ça change un peu la donne. Ça veut dire que mon estime ne dépend pas de ce que je vois, mais dépend de ce que Dieu, lui, voit quand il nous regarde. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de suivre les influences autour de moi. J'ai juste besoin d'être celui que Dieu appelle, que Dieu a créé. Il dit, si tout était un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi, ni à la tête de dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Waouh ! Je vais terminer bientôt, je vais inviter des musiciens à s'approcher. Il y a un homme, dont je ne citerai pas le nom, qui a créé une marque de chaussures très connue, avec des semelles rouges. Si vous connaissez les semelles rouges, vous savez de qui je parle, vous savez de quoi je parle. C'est un designer de mode, il a créé des souliers pour dames, majoritairement, avec des belles semelles rouges. Puis les madames, quand tu marches dans la rue, puis que tu marches, puis que là tu fais comme, check, il y a des semelles rouges. Là tu te dis, oh wow, elle a des beaux chaussures. Peu importe les chaussures, peu importe que tu les aimes ou pas, tu vois les semelles rouges, tu te dis, wow, c'est beau. Puis lui, il a décidé de faire de quoi qui, pour vous et pour moi, serait une folie, c'est que si aujourd'hui je vous disais, on va prendre 2 minutes, et chacun d'entre vous, vous allez venir toucher mes pieds. Puis là, vous allez dire, ben écoute Jérémy, merci, ta prédication était correcte, on s'en va maintenant. S'il y a bien une partie du corps qui, des fois, nous répulse, ou quand on arrive chez quelqu'un pendant l'hiver, et puis qu'ils disent, oh, enlevez vos chaussures s'il vous plaît, puis là tu fais comme, ah, oh, sais-tu ceux qui puent ou pas ? Là, tu es comme gêné, tu dis, oh non, finalement, on va aller prendre une marche. Mais lui, il a décidé que les parties du corps les moins honorables allaient devenir ceux les plus « wow ». Puis il leur a mis des belles semelles rouges pour que même les parties du corps les moins honorables reçoivent le plus d'attention. Et sachez une chose, c'est que ces souliers-là ne coûtent pas à peu près de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert quelque chose, c'est que peut-être les membres qu'on estime les moindres méritent le plus d'attention. Ça, c'est l'appel de l'Église. Parce que dans l'Église, on ne te regarde pas avec ce que tu es capable. On ne te regarde pas avec des capacités que peut-être la société regarde. Ce qu'on voit, c'est qui tu es en Jésus-Christ. Puis l'Église, elle est là pour prendre soin même de ceux qui, peut-être, paraissent les moins honorables, ceux avec les moins de facultés. On est là pour justement rentrer dans l'appel que Dieu a pour nous et pas pour vous amener à devenir quelqu'un d'autre. Parce que l'Église est là, elle est là pour vous faire réaliser qui vous êtes en Jésus-Christ. Pas pour vous transformer, puis vous mettre à notre image, puis commencer à vous faire devenir quelque chose de différent. On est là simplement pour vous révéler qui vous êtes en Jésus-Christ. Celui que Dieu a créé, celui que Dieu a mis au monde. Je termine avec ceci, les musiciens vont nous conduire dans un chant. Dans Jérémie 1,4, ça dit ceci. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ce matin, c'est une révélation peut-être pour toi qui es ici et puis qui t'es comparé pendant peut-être les dernières années. Tu as passé les dernières années à marcher puis à te comparer peut-être, ça peut être même à nos leaders de loin, à dire « Ah, moi, je ne serai jamais capable d'être en avant parce que je n'ai pas ces capacités, je n'ai pas ci, ou je ne suis pas bon, je n'ai pas des talents, ou je joue de la guitare, mais je ne joue pas de la guitare assez bien, je joue du piano, mais je ne suis pas assez... » Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il y a juste ça qui devrait t'attacher. Il y a juste ça qui devrait être dans ton cœur. C'est de te dire que Dieu me connaissait. Il savait mes limitations. Il savait aussi mes capacités. Je n'ai pas besoin de prouver à personne quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. J'ai juste besoin de me réconcilier avec lui et de retrouver mon identité en Christ. Et peut-être de retrouver la marche sur le chemin sur lequel peut-être je m'étais arrêté comme pour les Galates. L'apôtre Paul leur a dit, vous marchiez bien, vous étiez bien parti. Mais qui vous a arrêté? L'influence qui vous a arrêté, elle ne vient pas de celui qui vous a appelé. Réfléchissons à ça ensemble ce matin. Vous marchiez bien. Il y a quelques années, quand vous êtes arrivé à Mosaïque, peut-être, tu marchais bien. Tu as grandi dans l'église, puis tu marchais bien. Puis l'influence qui t'a arrêté sur ta marche, je t'annonce ce matin qu'elle ne vient pas de celui qui t'a appelé. Elle ne vient pas de celui qui t'a appelé. Ce matin, il y a la possibilité pour toi de juste enlever peut-être le panneau « End of the road » ou « Route barrée », tu l'enlèves, puis de recommencer sur la route que Dieu avait tracée pour toi. Il ne faut pas en recréer une nouvelle, elle est toujours là. C'est juste de rejoindre la route que Dieu avait tracée pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va terminer avec un mot de prière? Les musiciens vont nous conduire dans un chant. On va reprendre ensemble tantôt le chant qui dit « Ce que nous voulons, c'est toi ». Et je veux juste ce matin, avant d'aller en prière, juste fermons nos yeux ensemble et puis juste là où tu es. Peut-être tu te rends compte que il y a des influences. Peut-être ça peut être familial, ça peut être peut-être tes amis, comme on l'a vu tantôt. Ça peut être simplement tes désirs qui t'ont amené à sortir du chemin que Dieu avait tracé. Juste ce matin, si tu es capable d'identifier que tu étais sur la route, que tu marchais bien, mais que finalement tu as quitté ce chemin que Dieu avait pour toi parce qu'il y a quelque chose qui t'a influencé sur ta route et que tu dis, Seigneur, moi je veux retourner sur ce chemin-là. Je sais en qui j'ai cru, je sais à qui j'appartiens. Si c'est ton désir ce matin de dire, Seigneur, moi, je vais quitter cette influence, puis je vais retourner sur la route, juste là où tu es, je vais t'inviter à lever ta main et juste en signe en disant, Seigneur, moi, je veux maintenant arrêter d'être influencé. Amen. Oui. Je veux arrêter d'être influencé, je veux arrêter de faire des choix pour les personnes qui m'entourent. Je veux commencer à marcher pour toi seulement. Je veux juste arrêter de réfléchir et puis arrêter de trouver des arguments et puis de juste retourner sur le chemin que tu avais tracé pour moi. Si c'est ton cas ce matin, juste t'inviter à lever ta main où tu es, puis on va prier ensemble. Amen. Plusieurs mains qui se lèvent ce matin. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu ta main, oui. Amen. Père éternel, merci. Merci parce que Seigneur... t'es un berger doux. T'es un bon papa. Tu sais prendre soin de nous quand on s'égare, quand on prend la mauvaise voie. Et puis tu peux juste venir nous chercher et nous consoler et puis nous ramener sur la bonne direction. Seigneur, je prie pour celui ou celle, Seigneur, qui dans sa marche personnelle, Seigneur mon Dieu, avait été influencé, avait quitté la route, Seigneur, que tu avais tracée pour lui. Je prie ce matin, Seigneur, que tu prennes soin de lui. Que tu puisses le ramener, Seigneur, à bon port. Que tu puisses enlever, Seigneur, les obstacles sur cette route, toutes ces influences qui ont venu à travers les années et lui donner, Seigneur, l'accès, Seigneur, au chemin que tu avais tracé pour lui. Je prie pour celui ou celle, Seigneur, mon Dieu, qui pendant des années peut-être s'est comparé, Seigneur, à marcher en regardant à gauche et à droite sur ce que les autres étaient, sur ce que les autres avaient comme capacité, en se diminuant. Et ce matin, Seigneur, tu lui révèles à quel point est-ce que tu l'avais choisi, tu l'avais placé à l'endroit où tu voulais. Et non seulement ça, mais tu le connaissais avant même qu'il puisse former dans le ventre de sa mère. Peu importe son handicap, peu importe sa façon d'être. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui nous réconcilie. Tu es celui qui nous accorde le pardon, qui nous apporte la guérison. Et on te rend grâce ce matin de nous ramener, Seigneur mon Dieu, sur ce chemin que tu as tracé pour nous. C'est au nom de Jésus qu'on t'a prié. Amen. Chantons ensemble ce chant pour terminer. Toi, déclarons-le ensemble si on veut retourner sur la route. Ce que nous voulons, c'est toi. Pour celui ou celle, Seigneur, qui a été influencé, on déclare que ce que nous voulons.